J'avais quitté Montréal pour Paris la veille au soir. Je roulais depuis plusieurs heures déjà. La route, monotone en ses premiers kilomètres, n'offrait pour paysage qu'une suite ininterrompue de platanes. Je connaissais bien cet itinéraire pour l'avoir souvent emprunté lorsque j'étais jeune. Mais plus de 15 ans avaient passé depuis lors. Quelquefois cependant, à la faveur du temps qui s'écoulait, il me semblait retrouver des formes familières. Une tour carrée envahie par le lierre, des bicyclettes entassées contre murs de pierre, et que mon oreille s'éveillait à d'anciennes résonances, des clameurs enfantines s'élevant au-dessus de murs clos, le claquement de souliers ferrés sur le pavement d'une ruelle. Autant d'éléments dont me revenaient les souvenirs, parfois confus, d'autres fois aigus, au fur et à mesure que je les redécouvrais. C'est ainsi qu'aux alentours de midi, je repérais sans hésitation aucune une auberge où je m'étais arrêtée dans le passé. J'avais faim. Le voyage en avion, les heures de route m'avaient éreintée. La voiture garée, je me dirigeais vers le bâtiment. À l'intérieur de l'auberge, je restais surprise. La pièce que je découvrais des yeux, une vaste salle à manger lumineuse, s'ouvrant sur des baies vitrées, se confondait presque parfaitement avec les images que j'avais en mémoire. Ce moment d'étonnement passé, j'avisai une baie devant laquelle je m'installai, commandai un menu, puis me laissai habiter par le calme environnant. Un ciel plat qui s'étendait à perte de vue sur une lande désertique dans lequel s'agitaient des mouettes, décrivant de ci, de là, de larges cercles, en jetant des cris perçants. Je les suivais des yeux, dans le miroitement des bassins, lorsque mon regard heurta le chambranle de la fenêtre. Instinctivement, je me penchai pour suivre leur vol, réalisant sur l'instant que j'avais déjà fait ce mouvement. Occupais-je la même place que 15 années plus tôt, époque de mon dernier voyage? Le chagrin m'envahit à cette pensée. Quelques semaines plus tard, ma mère que j'allais retrouver mourait, puis je déciderais de partir pour le Canada. Troublée, je reportai mon regard sur la salle afin d'y retrouver les marques du présent. Un garçon essuyait des verres derrière le bar, enroulant à l'intérieur de chacun un linge qu'il faisait tourner sur lui-même. Il les alignait ensuite sur le comptoir avec la monotonie des gestes répétitifs. Au fond de la salle, une famille déjeunait, chaque parent veillant sur un enfant. À l'époque, le décès de ma mère avait précipité ma décision d'émigrer. J'avais eu besoin d'oublier. Non que ce pays, son atmosphère et ses gens me fussent devenus étrangers. Mais la perspective d'y demeurer me donnait le sentiment que j'y étoufferais, prisonnière d'un monde et d'un temps révolu, prisonnière surtout de la vie de ma mère, de son histoire. Les dernières années auprès d'elle avaient été difficiles. Atteinte de sclérose en plaques, elle ne pouvait presque plus se déplacer et requérait une aide de chaque moment, ce à quoi je m'appliquais dès que j'étais près d'elle. Le calendrier universitaire étant souple, j'avais rassemblé mes cours en début de semaine et la retrouvais du jeudi au dimanche. Le reste du temps, ses amis et une aide ménagère se relayaient à ses côtés. Je dois pourtant avouer que même si j'étais jeune, 4 années à ce rythme avaient presque eu raison de ma propre santé. Je ne supportais plus les trains. Les attentes dans les aéroports étaient devenues une hantise et la seule idée de faire 8 heures de route me paralysait. J'avais même fini par égarer des bagages tant ces allers-retours me pesaient. Sans compter les études, la vie à la cité universitaire, j'avais le sentiment d'une course sans fin dans laquelle je ne me retrouvais plus. Et soudain, son décès. Avec le recul, je dirais que la seule chose positive fut que j'étais présente et pus accompagner ma mère jusqu'à la fin. Perdre sa mère à 22 ans n'est pas anodin, mais j'imagine que ça ne l'est jamais. Je me retrouvais donc seule d'un jour à l'autre, hormis quelques cousins éloignés que nous n'avions jamais fréquentés, mais que je me devais de prévenir et de réunir après les funérailles. Cela fait, je dus me décider au sujet de la maison, le lieu de mon enfance, là où j'avais grandi. Il m'était difficile d'imaginer m'en séparer. Jusque-là, l'idée ne m'avait même jamais effleurée. Pourtant, plus j'y pensais, plus je sentais que cette maison me ramenait au passé, m'y attachait, m'y condamnait. Les jours passant, il devenait par ailleurs de plus en plus clair dans mon esprit que si je n'agissais pas rapidement en vue d'émigrer, je ne partirais sans doute jamais. Ma mère disparue et moi dans sa maison, il me semblait que je ne pourrais que prendre sa place et poursuivre sa vie. Même l'idée d'aménager l'endroit en lieu de villégiature m'encombrait, j'ignore pourquoi. Mais chercher une réponse au pourquoi n'est-il pas une sorte d'affront? Sait-on jamais pourquoi? C'est un étrange sentiment que j'éprouvais alors, qui demeure confus dans mon souvenir d'aujourd'hui. Je me rappelle simplement m'être dit que si je restais, je mourrais à mon tour. Non pas physiquement sans doute, mais psychologiquement. Je mourrais à moi-même, à la jeune femme que j'essayais de devenir. À tort ou à raison, je m'étais finalement résolue à vendre la maison. Quand je fermais pour la dernière fois le petit portillon du lieu de mon enfance, je me rappelais que je ne m'étais pas retournée, le cœur serré pourtant, mais forçant de penser à l'avenir. De retour à Paris, je déposais une demande d'émigration qui reçut une réponse positive 8 mois plus tard. J'étais jeune, diplômée, apparemment tout ce qu'un pays d'accueil pouvait souhaiter. Il y avait de cela 15 ans. 15 ans que je n'étais plus revenue. Je l'avais réalisé récemment pour la première fois, m'étant toujours refusé à compter les années, les occultant même, comme si j'avais voulu ignorer le temps qui passait. J'étais partie au début de la vingtaine, j'en avais presque 40. C'était un sentiment étonnant car il me semblait que ces 15 années auraient aussi bien pu compter pour 15 mois. Nous avons beau savoir que nous vieillissons et le ressentir de façon inéluctable, quelque chose en nous résiste. Il me semblait que la fillette que j'avais été avait continué de vivre en moi à côté de l'adolescente, de la femme adulte. 15 ans, 15 mois, comme si c'était différent et pourtant semblable, comme si quelque chose était demeuré inchangé à travers le temps. À l'époque, je n'avais pas regretté ce départ. L'attrait qu'exerçait sur moi la perspective d'un horizon nouveau et le plaisir mêlé d'étonnement que j'avais éprouvé à évoluer dans une culture étrangère, à côtoyer des êtres différents et à découvrir un autre mode de vie m'avait beaucoup stimulée. J'avais, comme on dit, refait ma vie. Et tout allait plutôt bien. Jusqu'à ce jour récent où j'avais fait un étrange rêve. J'avais rêvé que j'allais la nuit me promener au bois des fées, ce bois situé sur la route de la mer à quelques centaines de mètres de mon village natal, et que j'y rencontrais une femme. Une fée peut-être, les choses étaient incertaines, qui avait, disait-elle, quelque chose d'important à révéler. Le rêve s'était terminé là. J'étais restée immobile devant cette femme, désirant la suivre mais n'osant le faire, m'éveillant sans même soupçonner la nature de ce qu'elle avait à me confier. De cette nuit-là, je n'étais pas parvenue à chasser les images de mon esprit. À vrai dire, les jours passant, j'avais tout fait pour me les rappeler, m'étendant pour les revoir en pensée, animée du désir d'en connaître l'issue, en vain. Voilà pourquoi, je crois, j'avais décidé d'entreprendre ce voyage. Une autre chose m'y avait poussée. Depuis 2 ans, Bruno et moi essayons d'avoir un enfant. De l'avis des médecins, aucune raison médicale ne nous en empêchait. J'avais par ailleurs longuement parlé de cette question en analyse, sans résultat, me semblait-il. L'enfant ne venait pas. Et je crois qu'à l'issue de mon rêve, je me suis mise à penser qu'un voyage au pays de mon enfance m'aiderait à y voir un peu plus clair. Tout a été si silencieux avec ma mère, avais-je dit. Justement, avait répondu la voix. Bien qu'il ne me parlât jamais explicitement de ce voyage, j'avais le sentiment que mon analyste m'accompagnait dans ce voyage. Lorsque je quittais l'auberge, aux alentours de 14 heures, j'avais encore plusieurs heures de route devant moi. Contrairement à la plaine qui défilait au matin, des coteaux et des vallons se succédaient maintenant sans fin, si bien que d'un kilomètre à l'autre, il m'était impossible de deviner l'horizon. J'étais séduite par cette nature, émue de la retrouver après tant d'années. Au milieu de l'après-midi, quand les odeurs de fumier et de foin coupés eurent ranimé d'autres souvenirs dans ma mémoire, je commençais véritablement de me sentir dans mon pays. Certaines scènes champêtres m'étaient redevenues tout à fait familières. Un large chapeau de paille ombrageant une silhouette de femme, bien campée, poing sur les hanches, au milieu d'un champ. Des enfants jouant dans les chemins de traverse. Les tintements d'un troupeau de vaches paissant à l'ombre des arbres. Et puis le soleil, qui déclinait à présent vers son couchant, durant ces heures où la lumière et l'ombre s'épousent pour dessiner des formes incongrues et surprenantes. Je commençais à me laisser gagner par le charme du paysage quand une toiture et la moitié d'un champ s'obscurcirent brusquement, tandis qu'une chaleur et une odeur humide traversées de courants d'air frais montait de la terre. Je frissonnai, élevai les yeux. L'orage menaçait. Les premières gouttes de pluie s'écrasèrent sur le pare-brise, tandis que la terre, humidifiée, exhalait ses parfums. J'humais l'air à plein poumon, enivré par tant de sensations oubliées. Bientôt, ce fut la tourmente. Du ciel bas et sombre, traversé d'éclairs, s'abattit une pluie diluvienne que les essuie-glaces avaient peine à repousser. Je dus ralentir et allumer les phares. Puis, l'agitation naturelle se calma aussi rapidement qu'elle était apparue. La pluie cessa, le ciel se dégagea, le vent chassa vers l'est les derniers nuages. De nouveau, la campagne resplendit, lavée des brumes de chaleur qui en avaient atténué les formes et les couleurs durant les heures précédentes. L'air était vif, l'ombre plongeait dans les vallées, le soir avançait. J'étais alors capable, non plus seulement de reconnaître le paysage qui s'offrait à ma vue, mais également de l'anticiper. De cette découverte, je fis un jeu, m'amusant à imaginer ce qui allait surgir au détour d'un virage, de derrière une colline, après un carrefour. Je me trompais si rarement que je m'étonnais chaque fois davantage. Comment pouvais-je si bien me rappeler ce pays après tant d'années? Ou comment avais-je cru avoir oublié ce qui, de fait, était resté si nettement présent à ma mémoire? La faculté de mémoire m'avait toujours étonnée. Notamment depuis que jeune, il m'était arrivé de me rappeler précisément des scènes ou des personnes que je n'avais pu ni vivre ni connaître. Je dis « me rappeler », car je les ressentais comme des souvenirs. Mais s'agissait-il de mémoire, d'imagination, de transmission inconsciente? Quelle était la part du rêve et du réel dans ces fantaisies? L'année de mes 17 ans, j'avais raconté l'une de ces scènes à ma mère. Elle se déroulait dans la cour attenante à la ferme de ses parents, mes grands-parents maternels que je n'avais pour ainsi dire pas connus, sous le figuier. C'était un dimanche, en fin d'après-midi. Une jeune fille rentrait du bal et son père, apparemment ivre, l'injuriait. Surgissait la mère qui saisissait l'homme par le bras et le poussait vers l'intérieur de la maison, tandis que la jeune fille, qui semblait prise de rage, cognait des pieds et des mains sur la porte de la grange. Au fur et à mesure que j'avais raconté cette histoire à ma mère, une histoire que je pensais avoir inventée à l'occasion de mes premières velléités d'écriture, j'avais vu qu'elle en était bouleversée. Assise auprès de moi, elle avait pris son visage dans ses mains et paraissait au bord des sanglots. Je n'avais su que dire ou faire. « Qui t'a raconté cela ?» m'avait-elle demandé. J'avais répondu que je l'avais vue, comme dans un rêve. Sur quoi elle m'avait confié d'une voix presque inaudible qu'elle avait vécu une scène semblable quand elle était jeune. « Tu en auras entendu parler », avait-elle conclu, en se levant pour se rassurer. Je ne la contredis pas. Considérant sa peine, je n'avais pas osé poursuivre. J'arrivai à Nagen, mais me dirigeai vers le seul endroit dont j'avais le souvenir qu'il offrit des chambres, le café de la mer. Ayant pris la clé de ma chambre et déposé ma valise, je décidai de sortir prendre l'air et me dégourdir les jambes avant de m'effondrer de fatigue. Sans m'en rendre compte, je pris le chemin du bois, marchant d'un bon pas, revigorée par l'air frais, anxieuse pourtant, comme je ne l'avais pas été depuis longtemps. Bientôt, plus aucun bruit ne troubla le silence. La nuit s'annonçait claire. Levant les yeux, je découvris que la lune était pleine. Un dernier coin de rue dépassé et j'aperçus la forme massive du bois. Il se tenait rond et compact, épousant les pentes d'une colline jusqu'à son sommet, érigeant ses frondaisons en arc de cercle sur le fond du ciel. La lune surplombait en son centre, le couronnant d'un halo argenté qui lui donnait un air féerique. Je songeais que c'était peut-être des nuits de pleine lune qu'il tenait son nom, le bois des fées. Dans cette contrée, on se plaisait à raconter des contes de fées et de lutins. On aimait à croire dans le surnaturel, dans ce qui, au-delà de la connaissance rationnelle, guide le monde et les êtres. Processions, fêtes à l'occasion des moissons, cultes sylvestres, autant de rituels séculaires que les habitants pérennisaient comme des occasions de célébrer. Les prêtres avaient bonne réputation dans la région, mais leur statut était bien différent de celui qu'on leur reconnaissait ailleurs. On les révérait comme on respectait les rebouteux et les diseuses de bonne aventure. Et si on portait les enfants en front baptismaux, on ne manquait pas de les mener à la sorcière en cas de besoin. la Marie Fantine. Ainsi l'appelaient les villageois. De son prénom, elle était née Marie, mais personne ne savait vraiment de qui ni en quelle année. On racontait qu'elle avait grandi seule dans cette masure, abandonnée toute jeune par une fille mère. Ne sachant ni lire ni écrire, elle parlait un jargon où les bruits de la nature et des cris d'animaux se mêlaient au langage humain. À bien l'écouter, on finissait pourtant par trouver un sens à ce qu'elle disait. Et elle avait des talents particuliers. Certains assuraient qu'elle était immortelle et savait voler. Tous la respectaient, en la redoutant. Beaucoup la consultaient à l'occasion de situations embarrassantes et aucun n'aurait songé à trop s'en moquer. On la payait de retour de quelques volailles, d'un kilo de farine ou d'un coupon d'étoffe. Jamais elle n'acceptait d'argent. Une matière maudite, jurait-elle en signant. N'était-ce pas Marie Fantine que j'étais venue retrouver, désireuse d'en savoir plus et inquiète, comme au temps de mon enfance, quand je me faufilais à travers les ombres du bois, curieuse et effarouchée par les moindres tremblements de feuillage, éprouvant et le désir et la crainte de la rencontrer. Tandis que je m'approchais du bois, les questions se précipitaient dans mon esprit. Je me sentais étourdie par cette nouvelle mémoire. Autour de moi, nul signe de vie, aucun bruit menaçant, rien qui assurât ni la paix ni le trouble. Je savais précisément où se trouvait le lieu de mon rêve et quel chemin emprunter. C'était là où nous nous réunissions tout jeunes. Il me fallait couper directement jusqu'au pin central. Là, je devrais m'arrêter pour écouter le bruit de l'eau afin d'en remonter le cours jusqu'à la source, cet endroit où la rivière souterraine émerge de la terre. Ce bois était bien le lieu de ma jeunesse, qui m'avait fait apprivoiser la frontière étonnante de fluidité où s'entrecroisent le rêve et la réalité. Le lieu qui m'avait fait investiguer, pleine d'excitation et de curiosité, tout ce qui concerne la vie végétale et animale. Le lieu, enfin, où nous jouions à tous les jeux d'enfants, à cache-cache et chat-perché, ou au corsaire, hissé dans le tronc creux d'un vieux châtaignier d'où nous scrutions l'horizon. J'avançais prudemment, m'aidant d'un bâton pour écarter les ronces sur mon chemin, à l'affût des bruits, attentive aux mouvements. Au fur et à mesure que je m'y enfonçais, le bois s'épaississait. Bientôt, je ne vis plus le ciel. L'air même semblait s'être alourdi, comme engrossé du poids des odeurs. J'y discernais insistant ceux de la mousse et des pins. Étaient-ce ces odeurs qui m'étourdirent ? L'extrême fatigue que j'avais éprouvée à la fin du voyage venait de s'abattre de nouveau sur moi. Seule la perspective d'être à quelques mètres de la source me décida à poursuivre. Du pin central, je n'eus pas de difficulté à repérer la provenance de l'eau et à remonter vers la source. Bavarde et profuse, celle-ci s'écoulait dans le bois avec vivacité. Plusieurs minutes durant, je restais émerveillée, puis en sueur et assoiffée, je me penchai sur le bord pour me laver le visage. Il me sembla renaître sous l'effet de l'eau fraîche. Ma respiration se fit de plus en plus ample. Mais cet apaisement céda bientôt place à l'inquiétude. Qu'allait-il se passer à présent ? N'étais-je pas inconsciente d'avoir entrepris ce voyage sur la seule foi d'un rêve ? Qu'espérais-je trouver dans ce bois au milieu de la nuit ? Harassée, désemparée, j'amassai instinctivement des aiguilles sèches sur lesquelles, ayant étendu mon imperméable, je m'étendis en m'enveloppant du mieux que je le pouvais dans mon pullover. J'étais exténuée. Quand je m'éveillai, l'aube était là. Il me fallut de longues secondes avant de réaliser où je me trouvais. Ayant refait en pensée et en sens inverse le chemin qui m'avait mené là, je ne sus si je devais sourire ou m'en vouloir de cette étonnante aventure. Curieusement, je me sentais mieux, comme si je m'étais allégée du poids de quelque chose au cours de la nuit. Debout, j'empruntai le sentier qui contournait le bois afin de regagner la route sans avoir à le retraverser. C'est à ce moment-là que j'aperçus les murs délabrés de la masure de Marie Fantine. Je reconnus aussitôt la porte dont le bois vermoulu s'était effrité avec les années. Comme je la poussais, un grincement sourd s'en échappa. Mon cœur se serra. Il me sembla que c'était toute mon enfance qui ressurgissait à cet instant-là. Du seuil, je ne distinguais pas l'intérieur. Seule la forme massive d'une table inclinée se détachait de la pénombre et, prise dans un raie de soleil que laisse infiltrer la porte entrouverte, une assiette de faïence ébréchée. Mes yeux se faisant à l'obscurité, j'appelai doucement « Marie Fantine ? Marie Fantine ?» puis, n'obtenant aucune réponse, me risquai à l'intérieur. Les lieux semblaient abandonnés. Sur le sol de terre battue traînaient des outils rouillés. Dans l'âtre, un chaudron de fonte. Je sursautai en percevant des grattements. À peine eus-je esquissé un mouvement en direction du bruit que je vis un animal filer et disparaître dans un trou du mur. Au même instant, des piaillements suraigus attirèrent mon attention vers un sabot. C'étaient des musaraignes. Je frémis et sentis de nouveau mon cœur se précipiter. Je contemplai une dernière fois les lieux et, pleine d'une émotion confuse, ressortis.